Podcast Unige.
Bonjour et bienvenue sur Lifelong Learning à Tunige. Je suis Raphaël Zafran et pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le docteur Adrien Alberini, co-directeur du certificat de formation continue en droit de la finance numérique, le CAS Digital Finance Law. Adrien Alberini est chargé d'enseignement à la faculté de droit et affilié comme enseignant et chercheur au Centre de droit bancaire et financier et au Centre de droit du numérique de l'Université de Genève. Il est associé chez Sigma Legal à Genève, études d'avocat dont il est également cofondateur. Adrien Alberini est docteur en droit, titulaire d'un LLM in Law, Science and Technology de l'Université de Stanford et avocat au barreau de Genève. Il exerce, publie et donne des conférences principalement en droit des affaires avec un accent sur les questions tant de droit public que de droit privé liées aux nouvelles technologies. J'avais déjà eu le plaisir d'échanger avec Adrien Alberini en duo avec la professeure Aline Darbelay lors du troisième épisode de ce podcast. Cet épisode avait cependant été enregistré dans des conditions particulières liées au contexte de la pandémie. Pour ce nouvel épisode, nous avons fait le point sur les enjeux actuels du monde de la fintech et comment ceux-ci sont pris en compte au sein du CAS Digital Finance Law qu'il co-dirige. Le rythme effréné de l'innovation au sein du monde des technologies financières illustre le rôle indispensable de la formation continue dans l'économie du XXIe siècle. En effet, la formation continue permet aux professionnels et aux organisations non seulement de rester à jour d'un point de vue compétences, mais également d'être adéquatement préparés pour faire face aux changements et à de potentielles crises. Au-delà de leur expertise et de leur analyse toujours très fine des tendances de leur domaine, Aline Darbelay et Adrien Alberini, en tant que co-directrice et co-directeur du CAS, œuvrent pour maintenir cette formation au plus haut niveau, dans une démarche de mise à jour constante des contenus et des méthodes pédagogiques. Ceci est indiscutablement une bonne pratique à souligner. Ce fut donc un réel plaisir de m'entretenir à nouveau avec Adrien Alberini afin de développer davantage certains aspects soulevés lors de notre première conversation. Docteur Adrien Alberini, bienvenue à nouveau sur le podcast Lifelong Learning à Tunige.
Bonjour, merci de me recevoir à nouveau, c'est un plaisir.
Alors, je me suis rendu compte que lors de notre première conversation, je n'avais pas eu le temps de vous poser quelques questions sur votre parcours, comme j'ai pris l'habitude de le faire avec les invités de ce podcast. Nous avions enregistré l'épisode dans des conditions qui n'étaient pas idéales, à distance, et nous nous étions par conséquent immédiatement plongés dans les aspects juridiques liés aux crypto-monnaies, à la blockchain, aux banques entièrement en ligne, etc. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de vous accueillir un peu plus confortablement dans notre studio ad hoc à l'Université de Genève. Nous regrettons néanmoins que la professeure Darbelay n'ait pas pu se joindre à nous à cause d'une extinction de voix, mais ce n'est que partie remise. Adrien Alberini, vous êtes avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies et en réglementation économique, associé au sein de l'étude Sigma Legal, mais vous avez également un doctorat en droit et vous êtes chargé d'enseignement et chercheur affilié à la faculté de droit de l'Université de Genève. Parlez-nous un peu de votre parcours et de comment vous faites le lien entre votre métier d'avocat et vos activités de recherche et d'enseignement.
Oui, alors très volontiers. Donc, ça fait une douzaine d'années que je pratique comme avocat ici à Genève. C'est l'occasion pour moi d'être confronté à toute une série de questions très très pratiques qui se posent, notamment dans le domaine bancaire et financier. Et puis, ces questions pratiques, évidemment, elles soulèvent généralement aussi des réflexions un peu plus fondamentales. Et c'est là que le pont se fait avec, je dirais, mes activités plus académiques. J'ai fait un doctorat ici à l'Université de Genève, comme vous l'avez rappelé. Et donc, je dirais, il y a une alimentation réciproque entre les activités pratiques et académiques. Les deux s'entretiennent relativement bien l'une l'autre.
Et parlez-nous un peu de votre étude Sigma Legal, dont vous êtes cofondateur.
Alors oui, très rapidement, en deux mots, c'est donc une étude qui est orientée vers le droit des affaires, le droit commercial en général, mais avec un accent prononcé sur les questions de nouvelles technologies, qu'il s'agisse de technologies digitales ou technologies plutôt dans le domaine de la santé, les biotech notamment.
Depuis notre dernière conversation, il y a près de 18 mois, quelles sont les tendances ou les cas que vous avez vus revenir régulièrement dans la pratique ?
Alors, je dirais, je crois qu'on peut voir deux tendances majeures ces dernières années, en particulier depuis le début de la crise du Covid. La première, c'est qu'évidemment, il y a une intensification des projets de digitalisation dans les entreprises, ça c'est indéniable. On veut les en mener toujours plus sur toutes sortes de sujets et de manière toujours plus rapide. Et je dirais le corollaire presque inévitable de cette manière de procéder, c'est évidemment aussi une augmentation des situations de tension, voire des litiges sur des projets qui ont souvent été menés trop rapidement et donc pas de manière absolument optimale.
Lors de notre premier entretien, nous avions évoqué la numérisation croissante du secteur bancaire et financier. La professeure Darbelay avait soulevé le fait qu'en réalité, nos sociétés font face à un processus de transformation digitale majeur et de nouveaux modèles d'affaires qui sont disruptifs. Aline Darbelay avait également démontré que cette réalité implique des changements et des adaptations qui vont bien au-delà d'un simple processus de numérisation qui implique une conversion en données numériques. Quels sont ces nouveaux modèles d'affaires qui apparaissent avec le processus croissant de digitalisation dans notre société ?
Alors, la professeure Darbelay vous le dirait certainement bien mieux que moi et je regrette qu'elle ne soit pas avec nous aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, ce sera partie remise. Mais je crois que la réflexion qu'on se fait tous les deux et que l'on partage, c'est que, je dirais, sur les 30 dernières années, comme vous l'avez dit, il y a eu une numérisation des données. On a vu toute une série de projets dans les entreprises, en particulier les établissements financiers. Ce que l'on voit aujourd'hui qui est vraiment un cran plus avancé, c'est que le service lui-même au client devient véritablement numérisé et les produits deviennent digitaux avec les crypto-actifs notamment. Donc c'est véritablement toute la relation entre l'établissement et son client, que ce soit dans la manière d'échanger mais aussi dans les produits qui se digitalisent. Et ça évidemment c'est une évolution qui est majeure et probablement en bonne partie réversible.
Ces changements et évolutions impliquent donc inévitablement une adaptation du cadre juridique. Le besoin de réguler, mais également d'accompagner les entreprises dans leurs devoirs de conformité, compliance, semble être un enjeu particulièrement clé. Quels ont été les grands changements d'un point de vue légal, juridique, en ce qui concerne la régulation du secteur bancaire et financier ?
Alors, l'enjeu principal, c'est vraiment, et ça je crois qu'en Suisse on est particulièrement attentif à cela, on essaie d'être pragmatique, c'est d'avoir un cadre qui n'empêche pas l'innovation. Vraiment l'idée, c'est de se dire l'innovation, même si on peut la critiquer à certains égards, est quand même source d'un certain nombre d'aspects positifs, et donc on veut que ce cadre réglementaire, qui a été conçu à une époque finalement il n'y avait pas autant de digitalisation, soit quand même suffisamment souple, il soit un petit peu amélioré sur certains points pour permettre ces évolutions dans les services ou les produits comme on en parlait tout à l'heure. C'est plutôt réussi, on voit que la place suisse est très dynamique. Cela dit, il faut quand même maintenir certains garde-fous, c'est bien tout l'objectif de la réglementation dans le domaine bancaire et financier, et en particulier de faire en sorte que les marchés et les investisseurs restent protégés. Peut-être une petite précision qui permet d'illustrer cela, on a un cours dans le cadre du CAS que je trouve assez passionnant, qui est d'ailleurs donné par un intervenant de la FINMA, qui porte sur la surveillance en temps réel des établissements bancaires et financiers. Il explique comment cette relation entre l'entité assujettie et puis le surveillant, le régulateur, comment cette relation évolue au travers d'outils digitaux qui permettent des échanges de données en temps de plus en plus réel. Et ça montre bien à quel point on essaye d'être pragmatique et d'évoluer même dans la relation de surveillance en Suisse.
La problématique de la protection des données et les enjeux autour de la cybersécurité sont omniprésents, non seulement dans la presse, mais évidemment au sein des entreprises. Si nous concentrons sur le secteur bancaire en Suisse, quel est le cadre réglementaire qui s'applique, qui le met en œuvre et quels sont les enjeux principaux en termes de protection des données et de cybersécurité ?
Alors vous l'avez dit, hein, je crois qu'on le voit vraiment tous les jours, c'est vraiment devenu l'un des enjeux absolument majeurs, raison pour laquelle dans le cadre du CAS, tout un module est consacré à ces questions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un corps de règles générales en matière de protection des données, typiquement la loi sur la protection des données en Suisse, ou le RGPD dont on parle beaucoup dans l'Union européenne, et viennent s'ajouter à ces règles de base des règles très spécifiques dans le domaine bancaire et financier, notamment une série de règles qui sont édictées par la FINMA, et qui viennent ajouter un degré de protection additionnel. Ça, c'est vraiment très important. On considère qu'on est dans un domaine qui présente des risques particuliers et donc qu'il faut ajouter des règles spécifiques aux règles généralement applicables.
Donc ça, c'est la réponse de l'expert. Pourquoi est-ce important de savoir cela pour un client lambda d'une banque, par exemple ?
C'est important. Alors finalement, dans le fond, si on réfléchit à la relation entre le client et sa banque, ce qui finalement n'est pas très différent de la relation entre un patient et son médecin, c'est la confiance qui est au cœur de la relation contractuelle. Et cette confiance, elle doit se maintenir, elle doit se construire, elle doit se maintenir. Et le client, spécialement aujourd'hui, dans une ère qui est quand même assez bouleversée, a besoin d'être rassuré. Et on pense en tout cas que ces règles accrues en matière de protection des données contribuent à cela, continuent à renforcer la confiance que les clients peuvent avoir dans leurs banques ou leurs établissements financiers.
Alors, je souhaitais vraiment vous entendre aussi sur les enjeux autour des services cloud. On en parle beaucoup. Au niveau de l'actualité, nous avons par exemple l'entrée en bourse récente de l'entreprise française OVH Cloud qui vient concurrencer les géants américains et qui parie sur le fait que l'importance grandissante de la souveraineté européenne des données jouera en sa faveur. Mais cette souveraineté est-elle une garantie de sécurité et est-elle suffisante ?
Alors là, vous ouvrez vraiment une question qui est passionnante et assez fondamentale. Alors peut-être la première remarque préliminaire, c'est que au niveau déjà des établissements bancaires et financiers, le recours au cloud est devenu quasiment inévitable. Ça ne se faisait pas il y a quelques années, simplement c'est devenu extrêmement difficile de tout conserver à l'interne. Donc effectivement, que ce soit de manière générale ou dans le secteur financier en particulier, le recours au cloud est nécessaire. Maintenant, je crois qu'il y a deux choses à distinguer. La première, c'est vraiment la sécurité au sens strict. Ça, c'est le premier enjeu. Est-ce que d'avoir un prestataire européen va améliorer les choses ? Pas forcément. Il faudra voir s'il a véritablement les compétences technologiques au même titre que les prestataires américains ou chinois. Ça ne va pas forcément être mieux. Il faudra vraiment que ce prestataire dispose de ces compétences-là. Puis après, il y a un enjeu qui, je dirais, est plus large, plus culturel. C'est qu'effectivement, un prestataire européen va probablement être imprégné d'une certaine culture, de certaines valeurs qui nous sont, je dirais, plus proches. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a peut-être un intérêt de se dire, voilà, c'est un prestataire, s'il reçoit des demandes de certaines autorités américaines, russes ou de certaines juridictions asiatiques, il ne réagira peut-être pas de la même manière, il sera peut-être plus sensibilisé à la protection des données. Et ça pourrait en tout cas accroître, je dirais, de nouveau la confiance que le public peut avoir, notamment dans les établissements qui travailleraient avec ce prestataire européen. Cela dit, encore une fois, pour faire le lien avec le premier point, je pense qu'il ne faut pas minimiser la difficulté à développer des technologies aussi pointues que ce que notamment les prestataires américains ont réussi à faire ces dernières années.
Mais est-ce que c'est seulement une question de confiance et de culture, finalement ? Parce que un prestataire cloud qui est basé en Europe a une peut-être meilleure connaissance du cadre de protection des données européen par rapport à un prestataire américain ou chinois. Vous pensez que c'est pas vraiment quelque chose qui est si important.
Alors, c'est vrai que... Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les prestataires américains ou chinois ont des moyens considérables. Donc, je pense qu'ils connaissent tout aussi bien le cadre réglementaire que les prestataires locaux. Maintenant, en étant basé dans plusieurs juridictions, et pour reprendre l'exemple des Américains, notamment aux États-Unis, évidemment, ils font face sur leur territoire aux demandes des autorités américaines. C'est vrai qu'un prestataire européen qui serait actif uniquement dans l'Union européenne, et éventuellement en Suisse, enfin dans quelques juridictions qui nous entourent, eh bien, d'un point de vue bêtement physique ou territorial, serait peut-être moins sujet à des demandes qui pourraient émaner d'autorités américaines. Maintenant, est-ce qu'un prestataire de ce type parviendra à n'avoir qu'une présence européenne, pour ainsi dire ? Ça paraît quand même difficile.
Nous avions un peu parlé la dernière fois de la blockchain qui peut apparaître comme étant une solution pour ces questions de cybersécurité également. Quelles évolutions pouvons-nous attendre et quel intérêt la blockchain présente-t-elle réellement d'un point de vue sécurité ?
Alors c'est vrai qu'il y a évidemment toute cette dimension sécurité de la blockchain qui est importante et en cela, on en parlait tout à l'heure, c'était le premier volet, vraiment la compétences technologiques en matière de sécurité. La blockchain peut apporter des solutions à ce niveau-là. En revanche, la blockchain ne change pas fondamentalement la discussion sur les aspects culturels, relations avec les autorités. Une solution de blockchain émanant essentiellement des États-Unis, avec un certain nombre d'acteurs qui seraient présents aux États-Unis, reste sujette, même s'il y a une forme de décentralisation, reste sujette à potentiellement une influence des autorités américaines. Donc je dirais, là encore, ça dépendra beaucoup de comment la solution de blockchain en question est développée et implémentée, notamment d'un point de vue territorial et de présence des serveurs.
Alors, au-delà des évolutions au sein des banques classiques, il y a le phénomène de l'apparition des banques en ligne, des néobanques, et de la numérisation de la relation client, vous en aviez un petit peu parlé tout à l'heure, avec des entreprises qui capitalisent sur les possibilités offertes par l'intelligence artificielle, leur permettant par exemple d'offrir un certain nombre de services automatisés à leurs clients. Quels sont les enjeux au niveau de la confidentialité et les risques de ces nouvelles pratiques et comment les modérer ?
Alors la question est à nouveau intéressante et je dirais particulièrement en lien avec certains développements du CAS cette année dans le module 3 où on a précisément abordé de manière approfondie ces questions. L'un des grands enjeux de l'intelligence artificielle, c'est évidemment toute la problématique des biais. Et on sait notamment que dans le domaine bancaire et financier, certains nouveaux prestataires, ou certains prestataires existants, mais qui ont voulu offrir des nouveaux types de solutions, ont offert des solutions qui, malheureusement, basées sur l'intelligence artificielle, qui incorporaient des biais. Et on a vu certaines conditions offertes à des hommes qui étaient plus favorables que des conditions offertes à des femmes dans des situations quasiment identiques. Donc, et après, on connaît évidemment le problème de l'intelligence artificielle et de la boîte noire, c'est que c'est pas toujours très facile de retracer la manière dont la décision a été prise. C'est là que se situent probablement les enjeux majeurs de ces solutions à l'avenir. Autrement dit, les établissements qui veulent intégrer ce type de technologie vont devoir s'assurer qu'au final, ça ne conduit pas à des résultats qui en réalité sont déjà problématiques d'un point de vue social, et puis ensuite qui auraient un effet contre-productif pour la banque ou l'établissement en question.
Une question comme ça, mais est-ce que ces établissements qui utilisent l'intelligence artificielle et qui ont une intelligence artificielle qui est sujet à des biais, est-ce qu'ils s'exposent à des poursuites
Alors effectivement, le cadre réglementaire dans l'Union européenne est en train d'évoluer. On dit toujours on va pas assez vite en droit. Évidemment, il faut prendre le temps de réfléchir avant d'adopter des règles. Mais effectivement, on va dans cette direction-là, d'adopter des règles très spécifiques qui cadrent l'utilisation de l'intelligence artificielle, surtout en présence de risques de biais particuliers, et donc évidemment en aval des problèmes de responsabilité et de sanctions.
Alors ça, c'est un petit peu pour les aspects peut-être à surveiller, mais quels avantages et progrès ces évolutions représentent-elles à votre avis ?
Alors, on pourra toujours se poser la question, et ça je crois que c'est très personnel, de discuter des avantages ou des progrès. Certains apprécient les relations toujours plus digitalisées. On sait que toute une série de personnes n'apprécient pas particulièrement aller dans des banques ou rencontrer des conseillers financiers. Donc ces personnes se sentent parfois mal à l'aise, et c'est des personnes qui ont parfois même des moyens. Donc effectivement, il y a toute une série de personnes et des jeunes qui préfèrent la relation digitale, donc c'est des avantages. On peut l'apprécier ou au contraire s'en plaindre. Je crois qu'il y a en tout cas une réalité aujourd'hui, c'est que c'est un progrès technologique que l'on n'arrêtera pas. Toute la question, c'est de savoir comment on va le canaliser, comment on a canalisé les grands fleuves il y a un ou deux siècles. Donc c'est ça l'enjeu d'un point de vue juridique, mais ça ne s'arrêtera pas en tout cas.
Peut-être une dernière question autour des enjeux et des thématiques d'actualité de ce secteur, la question de l'open source. Est-il possible aujourd'hui de développer des solutions au sein d'un établissement financier sans les partager, au moins partiellement, avec une communauté externe ?
Alors, l'open source, c'est un sujet qui est délicat dans le domaine bancaire et financier. Il y a encore eu peut-être une 10 ou 15 d'années, c'est vraiment un mot qu'on n'aimait pas entendre. C'était en opposition avec toute cette culture de la confidentialité. Open source commence par open, donc il y avait vraiment cette crispation de départ. Aujourd'hui, on sait que la plupart des solutions informatiques très récentes, en particulier dans la blockchain, sont essentiellement conçues sur la base de l'open source, qu'elles sont robustes, qu'elles sont stables. Et donc, effectivement, il devient quasiment impensable de prévoir des nouveaux développements informatiques sans se baser sur de l'open source. Donc je crois, et d'ailleurs on voit dans la pratique, les choses ont évolué. On essaie plutôt de comprendre quel type d'open source sont présents dans les différentes solutions, mais on n'essaye pas de trouver des solutions sans open source. La question suivante qui va se poser, évidemment, pour l'avenir, c'est celle que vous évoquez, à savoir est-ce que les banques vont, ou les établissements financiers vont mettre à disposition des parties de code? Alors d'un point de vue légal, ça peut être obligatoire. Selon ce que l'on a utilisé, on peut être tenu, en réalité, c'est comme une sorte d'effet ricochet, on peut être tenu de mettre à disposition du code que l'on aurait soi-même développé sur la base d'un code open source préexistant. Puis après, plus généralement, il y a la question de se demander est-ce que ce ne serait pas stratégiquement intéressant de le faire. Mettre du code à disposition sur le marché, c'est aussi une garantie qu'une communauté de développeurs vienne regarder le code, vienne voir s'il a des failles de sécurité, et donc contribue à l'améliorer. On parlait de sécurité tout à l'heure, c'est une des mesures de sécurité qui peut être extrêmement intéressante.
Alors, ces thématiques et tendances actuelles autour de l'open source, de la protection des données, de la blockchain, des services cloud, on les retrouve justement au sein du programme d'études du certificat de formation continue en droit de la finance numérique, le CAS Digital Finance Law, dont vous êtes le co-directeur. Rappelez-nous un petit peu quels sont les objectifs pédagogiques et les compétences visées par le certificat.
Alors, je crois que l'objectif vraiment premier de ce programme, c'était d'offrir à la place bancaire et financière qui est très présente dans notre région, vraiment les moyens de continuer à conserver les compétences nécessaires face aux évolutions qu'on vit actuellement. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre à disposition une formation continue à l'attention des professionnels du secteur. Ensuite, on sait qu'il y a aussi toute une série de personnes qui souhaitent se réorienter, des professionnels d'autres secteurs, mais qui seraient intéressés peut-être par le monde bancaire et financier, et qui ont d'autres compétences, peut-être des personnes qui viennent du monde de l'informatique. Et cette formation leur permet à ces personnes-là de faire le pont vers le secteur bancaire et financier.
Et les personnes qui interviennent dans le programme, qui sont-elles?
Alors, je dirais qu'on a un mix aujourd'hui entre des personnes qui viennent vraiment du monde académique et qui offrent au CAS vraiment des fondamentaux et une structure extrêmement solide en termes de vraiment de background juridique fondamental. On a ensuite une série de juristes d'entreprise qui, notamment dans les établissements bancaires et financiers, donc qui vivent ces révolutions digitales au quotidien. Et enfin, une série d'avocates et d'avocats qui sont actifs dans ces domaines et qui ont, eux, souvent une expérience complémentaire par rapport aux juristes d'entreprise.
Pour entrer un petit peu dans le cœur du contenu, pourriez-vous nous donner des exemples d'activités d'apprentissage que vous proposez aux participants et aux participantes ? Sont-elles, par exemple, amenées à travailler sur des cas pratiques ?
Alors, c'est comme ça que l'on a orienté le CAS, et je dirais, donc on a deux volets derrière nous, ça s'est même renforcé en cours de route. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a, en tout cas dans les cours en groupe, on a à peu près 75% de cas pratiques. Donc l'idée, c'est essentiellement de faire des cas pratiques. La formation, si elle contient certes des éléments de réflexion fondamentaux, elle est destinée à des praticiens, et l'idée, c'est de mettre tout cela en pratique. Pour vous donner un exemple très concret, je crois que l'un des cas pratiques majeurs et qui plaît beaucoup aux participants, c'est une expérience en temps réel de problèmes de cybersécurité et la résolution, donc, pendant le cours d'un cas alors qui est fictif mais qui pourrait tout à fait être un cas réel, avec à la fois évidemment les aspects juridiques à régler, il y a beaucoup de démarches juridiques à entreprendre et les démarches de communication qui sont naturellement liées à ces problèmes juridiques.
Quels ont été les retours des deux premiers volets de participants et participantes? Quels étaient les profils des participants et participantes et qu'avez-vous appris sur leurs attentes?
Alors vous l'avez dit, effectivement, deux volets, on a la grande chance d'avoir des retours très positifs sur le programme. Il y a évidemment toujours des choses à améliorer, mais les retours sont généralement très positifs. On a des personnes qui ont un background à la fois juridique, mais d'autres personnes aussi avec des backgrounds plutôt de gestion de projet, voire quelques backgrounds techniques. Ce qu'ils nous disent, j'essaie de résumer à peu près tous, c'est que le programme leur offre, en tout cas les compétences acquises dans le programme, leur offre un confort important dans la manière de gérer les dossiers qu'ils ont dans leurs établissements respectifs. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir acquis une vraie vision transversale de ces questions, des bases de réflexion qui peuvent se réappliquer dans différents contextes, d'avoir échangé avec des pairs, parce qu'ils sont en groupe d'une vingtaine, donc il y a des échanges d'expériences. Et encore une fois, vraiment le retour est très intéressant dans cette perspective, parce que vraiment il y a une sorte de confort dans leur pratique au quotidien.
Et le fait de proposer des exercices de cas pratiques en situation réelle ou en simulation, j'imagine, contribue grandement à ce sentiment de confort, puisqu'on a déjà vécu les situations un petit peu dans un cadre d'apprentissage.
C'est exactement cela, et c'était le but. Encore une fois, on est en formation continue, donc le but, c'est d'apporter des solutions et des services qui répondent aux besoins des gens, et on a vraiment essayé de se retrouver le plus possible avec les praticiens pour répondre à leurs attentes. Et effectivement, comme vous l'avez dit, ça marche plutôt bien.
Alors ça, c'est pour les cas pratiques. Est-ce que, en parlant avec vos participants et participantes ou vos alumni, est-ce qu'ils vous ont fait part de situations ou de problèmes concrets dans leur pratique professionnelle qui ont inspiré peut-être les cas que vous leur proposez ?
Alors effectivement, on a cet échange quasiment constant, c'est-à-dire que nous-mêmes, comme intervenants, eh bien on a réfléchi à un certain nombre de choses, on a vécu, on est aussi, je dirais, à 70% des praticiens, donc on a soi-même vécu des choses, donc ça nous permet évidemment d'influencer les cas qu'on va proposer. Ils ne sortent pas simplement d'une pure réflexion théorique, c'est des choses qu'on a souvent vécues, avec évidemment les adaptations qui s'imposent. Et puis les participants vivent aussi ce type de problème quasiment au quotidien, donc il y a un échange qui est constant avec eux, justement sur comment les choses se déroulent en pratique, s'il y a eu tel problème, comment est-ce qu'on pense qu'il va évoluer à l'avenir. Je réfléchissais simplement à quelques questions qui nous ont remontées. Typiquement, une question qui est souvent revenue dans les dernières semaines du CAS, c'est quid si on développe une nouvelle fonctionnalité pour un système informatique, est-ce qu'on arrivera à la protéger par brevet, par le droit d'auteur? Et puis voilà, alors on est plus spécifique, des fois ils nous parlent du type de fonctionnalité qu'ils envisagent. Il y a ce genre de choses. On a aussi une question très intéressante récemment sur une vente d'un crypto-actif qui a été interrompue à cause d'un problème technique. Et la question se posait, du coup, la vente aurait dû se faire, elle ne sait pas faire. Comment est-ce qu'on va calculer la valeur du jeton qui aurait dû être vendu? Et ça va dépendre évidemment de sa qualification juridique. Il y a des considérations économiques et commerciales, mais ça va dépendre aussi de sa qualification juridique. Donc voilà le type d'échange qu'on peut avoir avec les intervenants.
Vous aviez donc lancé la première édition de la formation en avril 2020, en début de la pandémie et à distance. Comment le scénario pédagogique du CAS a-t-il évolué depuis ?
Alors, effectivement, c'était quand on a lancé, je me souviens qu'on en parlait un peu à l'époque, c'était le grand questionnement. Dans le fond, on a essayé de saisir l'opportunité, et puis le fait de pouvoir démarrer à distance nous a en réalité servi, parce que ça nous a permis de trouver des participants qui venaient d'autres cantons, et nous l'ont dit, ils n'auraient simplement pas eu le temps de se déplacer à Genève. Donc je dirais, autant on comprend les difficultés pour les formations de base d'être à distance, pour la post-formation dans un programme comme le nôtre, c'est plutôt un avantage. Les travaux de groupe fonctionnent très bien à distance, les outils sont efficaces. La vraie question pour l'avenir, et je sais Raphaël que vous y intéressez, c'est évidemment le high flex. C'est ça, on l'a testé, ça marche, comment est-ce qu'on arrive à le mettre en place d'une manière qui soit vraiment totalement satisfaisante, à la fois pour les personnes qui sont sur place et les personnes qui sont à distance. Cela dit, les premiers échos que l'on a sur nos tests sont plutôt positifs et on est confiant qu'on va pouvoir répondre à une demande qui est de plus en plus diversifiée.
Les participants vous ont fait des retours par rapport à ça, par rapport à ces tentatives de high flex. On en avait parlé un petit peu tous les deux. C'est vrai que des fois, on se pose la question de la valeur ajoutée par rapport à du complètement à distance, par exemple.
Alors, disons, ce qu'il faut voir, c'est que les professionnels qui participent à notre programme sont des professionnels qui ont beaucoup de responsabilités, qui sont sous pression, qui ont des agendas qui sont de plus en plus mouvants. Il est extrêmement difficile pour eux de se dire à tel jour, de telle à telle heure, je suis déjà sûr que je vais faire le déplacement à Genève. C'est devenu pratiquement impossible dans le monde d'aujourd'hui. Cela dit, s'ils ont la disponibilité la semaine en question, ils aiment quand même bien venir, et c'est ce qu'ils nous ont dit, parce qu'évidemment, pour le rapprochement avec les autres participants, les aspects évidemment alumni, réseautage, et ça marche quand même un peu mieux en présentiel. Donc, ce qu'ils aimeraient, c'est la flexibilité de se décider au dernier moment et de pouvoir le faire le cas échéant pour rencontrer leur père. Donc oui, un vif intérêt, avec les efforts évidemment que cela implique pour nous du côté de l'organisation, mais qui sont tout à fait gérables.
Alors on parle de réseautage. Lors de notre première conversation, nous avions discuté des nouveaux métiers qui sont amenés à apparaître à l'intersection de la finance et du numérique. Au terme du CAS, quels sont les débouchés professionnels possibles pour les participants et participantes? Avez-vous des retours de leur part par rapport à ça?
Alors je vais vous donner un exemple qui me paraît très bon et qui est réjouissant. C'est que très récemment, je crois que c'était à la toute fin du CAS de cette année, donc il y a 2 ou 3 semaines, on a vu que l'une des banques importantes de la place avait indiqué dans une offre d'emploi que la titularité du CAS était un atout, au même titre que le brevet d'avocat. Donc je dirais, en tout cas, on a réussi à atteindre ce stade. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie plus fondamentalement? On voit dans les offres d'emploi, notamment dans le secteur bancaire et financier, que l'on commence à rechercher, pas pour tous les postes évidemment, mais pour une série d'entre eux, des compétences en matière digitale et sur les questions juridiques qui sont associées. Et donc effectivement, le CAS vient, même sur des parcours qui peuvent être déjà très très riches, hein, avec des gens qui ont des backgrounds impressionnants, ça vient ajouter cette petite pierre qui sinon est relativement difficile à acquérir en dehors d'une formation.
Mais c'est vrai que c'est un exemple extrêmement intéressant parce qu'on réfléchit souvent à la reconnaissance par les pairs, mais aussi par le domaine de titres de formation continue. Et là, c'est vraiment un exemple très concret. Donc c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui ont suivi ce CAS.
Effectivement, on s'en réjouit.
Nous arrivons à présent à la conclusion de notre entretien, mais je souhaiterais tout de même prendre quelques minutes supplémentaires, car c'est une tradition sur ce podcast, pour vous demander quelques recommandations concrètes pour nos auditeurs et auditrices. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui nous écoutent et qui seraient éventuellement intéressées par le certificat et par le domaine de manière générale?
Alors je dirais, si on est intéressé au programme, ce qu'il faut c'est essentiellement de l'intérêt justement, aussi si possible quand même une certaine expérience professionnelle, parce que je dirais même si on n'a pas travaillé directement dans ce secteur, le fait d'avoir une expérience professionnelle permet des échanges et de mieux saisir finalement les enjeux qui se présentent. Donc je crois que le message il se veut très ouvert, si on a une expérience et de l'intérêt, vraiment, on est plus que bienvenu. Je crois qu'on a aussi amélioré l'accompagnement qu'on offre. On sait qu'il y a une série de candidats potentiels qui avaient un peu peur en voyant la technicité du programme. On offre un accompagnement. Souvent, les travaux se font en groupe. L'appréciation des connaissances en fin de module se fait aussi sous forme de travaux de groupe. Donc, on valorise davantage, je dirais, l'intelligence collective, la capacité à travailler ensemble. Et en cela, le programme peut donc être intéressant pour une communauté qui est beaucoup plus large que ce qu'il pourrait y paraître à première vue.
Et enfin, laissez-moi vous poser la question que nous utilisons toujours à la fin de nos épisodes, à savoir quels sont les livres, articles ou films qui ont influencé votre réflexion et que vous recommanderiez à nos auditeurs et auditrices?
Alors, il y a énormément d'articles très techniques qui sortent, évidemment, qu'on aborde dans le cadre du CAS, en tout cas qu'on propose aux participants. Maintenant, si on vient sur des lectures peut-être un peu plus fondamentales, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, il y a une ambiance un peu d'incertitude, beaucoup de personnes essayent de se redéfinir ou de se définir tout court. Pour moi, il y a un ouvrage qui m'avait pas mal inspiré à l'époque, c'était un livre qui s'appelle Startup of You, qui a été rédigé ou co-rédigé notamment par un des fondateurs de LinkedIn, et qui incite toute personne, quel que soit son background, quelles que soient ses connaissances, à vraiment prendre sa carrière et sa formation en main, en disant dans le fond, quel que soit le niveau auquel on se trouve, on peut même être à un niveau très élevé, il faut toujours essayer de se maintenir et de se rediriger, ou en tout cas d'acquérir les connaissances sur certains sujets qui sont en mouvance. Donc effectivement, ça c'est un livre qui, je pense, est particulièrement d'actualité, notamment au vu du sujet du CAS, et je dirais sur des réflexions plus personnelles. Après, pour ma part, il y a un document, alors qui lui est de nature plus technique, mais c'est un document qui avait été publié l'année passée par l'Autorité française de la concurrence, qui s'interroge en fait sur les mutations et les relations concurrentielles dans le domaine bancaire et financier, et qui montre que on a vécu pendant longtemps avec des établissements bien établis. Maintenant, on a des petites entreprises, des startups très dynamiques, des fintechs qui apparaissent, et puis on a en même temps les géants de la tech les GAFAM qui interviennent de plus en plus sur des services bancaires et financiers. Et donc, on a une sorte de remodelage potentiel dans les années à venir de tous ces services. Si on prend un peu de hauteur, on voit qu'on est simplement au début de combat et de remodelage du marché tel qu'on n'en a probablement jamais vu jusqu'ici.
Merci pour ces références que nous mettrons dans les notes de l'épisode. Docteur Adrien Alberini, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'être revenu nous voir dans le cadre de ce 9e épisode. Un grand merci également à Michel Raymond pour la technique, ainsi qu'à nos collègues Tobias Verli et Loris German pour le travail de diffusion autour des épisodes. Et à très bientôt sur Lifelong Learning à Tunige, le podcast du Centre pour la formation continue et à distance de l'Université de Genève. Podcast Unige.